Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Odo Radio. Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et on est ravis, bien sûr, avec toute l'équipe du journal d'information locale et culturelle, de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal en direct à midi, rediffusé à 15h à 18h. On rappellera juste comment nous suivre avant de présenter le programme, donc la bande FM 91.3, le site odoradio.fr, et chaque fois je le reprécise, hein, vous pouvez revenir, télécharger, écouter, enregistrer toutes nos émissions. C'est un service qui plus est gratuit, c'est très intuitif, en deux ou trois clics, vous y arrivez. Si vraiment vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. Et troisième moyen de nous suivre, troisième vecteur de communication, c'est le DAB ou DAB+, la radio numérique terrestre. Voilà, s'il fallait franciser cet acronyme en anglais, et c'est uniquement si vous êtes en métropole bordelaise, bien sûr, il y a une zone d'audience pour pouvoir nous suivre par ce biais-là également. Allez, le sommaire de ce journal en ce vendredi 20 décembre, c'est Yon qui va nous présenter quelques brèves d'infos. Yon reviendra également sur le goûter gourmand de Noël qui a clôturé l'année en beauté à l'OCAC, l'Office culturel et d'animation de la ville de Senon. C'était ce mercredi. On écoutera également Pascal Bruand, le président de la DSB, l'association pour le don de sang bénévole de Senon. Voilà, je rappelle, hein, le 28 novembre, lors des assises de la vie associative senonaise, on était en direct pour le journal et toute la journée, on a réalisé des interviews que l'on a diffusées tout le long de ce mois de décembre, après le 28 novembre, date de ces assises. Et là, on retrouvera Pascal qui nous parle de l'importance, bien sûr, du don de sang. On était dans une ambiance festive, donc vous écouterez avec un sujet, bien sûr, important de solidarité, de citoyenneté. Bien, il y aura un petit peu d'humour et je vous donnerai d'ailleurs, je rajouterai les dates des prochaines collectes. Donc on écoutera Pascal Bruand, le président de l'association pour le don de sang bénévole de ce nom, sur l'actualité, quelques concerts, mais surtout voilà, on soutient tous les concerts solidaires comme celui du Père Noël des post-rockers qui va se dérouler au Salem au Haïan. Voilà, ce sera ce samedi, puis là on écoutera le quatrième groupe qui sera présent. Voilà, mais j'en dirai quelques mots au moment opportun, et entre la musique et le magazine juridique et social, voilà un agenda ou tout du moins quelques infos en fonction du timing, voilà. Et comme tous les vendredis, c'est le magazine juridique et social Défendez-vous, et ce sera un nouveau magazine, il nous l'avait promis, Maître Paul Cesseau, avocat qui réalise cette émission. Voilà, il avait pu réaliser beaucoup d'audience la semaine dernière, une nouvelle émission, mais là c'est une nouvelle où il va parler notamment de discrimination dans le monde du travail et pas que. Voilà pour le sommaire du journal et du magazine à suivre, journal qui est tout de suite ouvert par Yon, qui vient nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Yon.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous, et on commence ces brèves d'infos en rappelant que tous les samedis à l'espace Jeunesse Famille Nelson Mandela à Senon, il y a l'atelier robotique pour les 10-17 ans, organisé par Un Rayon de Solidarité. L'atelier permet, tout en jouant, de développer des compétences électroniques et encodage. Plus d'informations sur l'inscription unrayondesolidarité.fr. Ce samedi également, mais cette fois-ci à Lormont, de 14 à 16 heures, un atelier lecture à voix haute intitulé Les porte-voix invite les adultes à perfectionner leur art oratoire. Cet événement gratuit sur inscription propose d'apprendre à transmettre des intentions, capter l'attention et maintenir l'auditoire en haleine. Ouvert à tous à partir de 18 ans, cet atelier permet à chacun de s'exprimer avec pour objectif final de participer à des lectures publiques. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la billetterie-lormont.fr. Pour les plus petits, à Lormont, ce samedi à 16h, l'auditorium Paul Méry de la médiathèque de Lormont accueille Cocktail, histoire de pelleter les nuages, un conte musical inédit proposé par Monia Laurit et Kim Gianni, destiné à un public familial dès 6 ans. Ce spectacle de 50 minutes mêle conte intemporel et musique avec un jeu de cartes comptant 7 histoires. Le hasard décide des 3 contes qui seront racontés, garantissant une expérience unique à chaque représentation. L'entrée est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur le site de la billetterie-lormont.fr. et le lundi 23 décembre de 14h à 17h, le Phare, centre socio-culturel de Lormont, organise une après-midi d'animation gratuite pour toute la famille. Au programme, ateliers créatifs, balades en poney, photobox, popcorn et l'incontournable concours du pull le plus rigolo pour les enfants et les adultes. Avec des lots à remporter bien sûr. La journée se clôturera par un goûter et du chocolat chaud offert à 17h. Suivez la remise des prix et pour plus d'informations, allez sur le site de la ville de Lormont. On peut également citer pêle-mêle des goûters de Noël ce samedi à Dravemont, encore à Bassens. Plus d'informations sur les sites des mairies de Floirac et de Bassens, des contes d'hiver à retrouver à Ambarès-et-la-Grave ou encore le marché de Noël de Floirac ce dimanche. Enfin bref, un week-end chargé avec beaucoup d'animations de Noël. Donc c'est tout pour les brèves d'aujourd'hui et tout de suite nous allons écouter un petit reportage réalisé par les stagiaires de 3e qui sont venus à la radio. Une grande première pour eux, on les écoute.
Bonjour à toutes et à tous, l'équipe 2-2 Radio s'est rendue à l'OCAC à l'occasion d'une dernière animation avant Noël.
Ce sont nous-mêmes les stagiaires de 3e qui avons posé quelques questions afin de nous renseigner sur l'événement de la journée.
En tendant notre micro, nous avons pu parler avec Anne-Lise, directrice de l'office culturel de ce nom, avec Alice, experte en origami, et enfin nous avons rencontré une famille.
Nous vous laissons avec ces quelques mots que nous avons récoltés.
Alors on a su qu'il y avait cet événement parce qu'un de mes enfants est à l'atelier poterie le mercredi et du coup il y avait un petit flyer et puis la prof de poterie a fait passer l'information. Et en plus on était venus l'année dernière et c'était très sympa. Donc là c'est la deuxième année qui fait de la poterie et deuxième année qui a cet événement et du coup comme c'était sympa l'année dernière on est revenu. Les prix sont vraiment très corrects, c'est abordable, moi j'ai 3 enfants et ils ont pu choisir ce qu'ils voulaient parce que vraiment les prix étaient très abordables.
Moi j'ai mangé 2 crêpes et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très bonnes et je crois qu'ils faisaient un peu chauffer de l'eau avec le Nutella pour qu'il soit fondant et du coup j'ai beaucoup aimé. Oh, oui sans problème, oui.
Tu reviendrais ?
Ça ne me dérangerait pas.
Et qu'est-ce que tu aurais pris en plus de ces crêpes ?
Un coca et après aussi j'aurais bien pris un chocolat chaud avec les verres avec des petits bords de chocolat aussi.
Moi j'ai pris 2 crêpes avec du Nutella.
Et un iced tea.
Ensuite, nous avons croisé Alice, la gérante du stand d'origami.
Je suis Alice Vial, je suis origamiste, je travaille avec l'origami, j'enseigne l'origami. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré Anne-Lise qui m'a présenté son projet pour une expo autour du papier. Donc, je me suis proposée pour créer des tétraèdres que je vais installer au Rocher de Palmer en mars. Chaque tétraèdre va représenter le vœu d'une personne, le désir d'une personne. Et donc, je suis ici pour rencontrer des gens qui ont envie de partager, de construire un tétraèdre et de réfléchir à quelque chose dont elles ont vraiment envie. J'ai fait une école d'origami à Milan il y a 10 ans. L'école a duré 1 an. Mais au tout début de l'école, j'ai commencé l'école et le même mois, je suis venue à Bordeaux. Et sur le miroir d'eau, j'imaginais plein de petits bateaux qui flottaient. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour faire des petits bateaux sur le miroir d'eau? Je m'installe à Bordeaux. Et c'est comme ça que je suis débarquée à Bordeaux. Mais c'était galère, hein, si vous voulez. C'est pas. Disons que j'enseigne beaucoup. Et dernièrement, en fait, grâce, j'ai eu le filiation Passe Culture. Et du coup, voilà, j'enseigne beaucoup dans les écoles. Depuis 1 an et demi, ça c'est la 2e année, j'enseigne à l'Oareille, l'Université du Temps Libre de Bordeaux. Et disons que je réponds à des commandes. Alors, j'ai des clients qui, par exemple, me commandent des séries d'origami pour leurs clients, des cadeaux, ou alors des décorations pour les magasins, pour les vitrines. D'habitude, j'adapte les cours en fonction de l'âge. Là, les plus petits, s'ils sont bien, disons que je peux commencer à travailler avec les enfants de 5 ans. C'est les tout premiers, du coup, tout premier pliage. L'âge des élèves, l'âge la plus élevée, je sais pas, la dame par exemple, elle avait l'air d'être assez âgée. Mais ça m'est arrivé de travailler avec des dames de 95 ans. J'ai donné des cours dans des EHPAD aussi. Donc voilà, là c'était vraiment. C'est là où j'ai rencontré le plus de monde, les personnes vraiment âgées. Depuis le début de l'année, oui, mais sinon, je vous avoue, ça a été galère. Hein. Depuis que je suis là, j'ai fait de tout. J'ai fait la nounou, j'ai travaillé dans la restauration. Et tout en gardant à côté le métier d'origamiste. Alors, à niveau professionnel, ça fait 10 ans. Quand j'avais 12 ans, c'est pas vrai, mais je dis pas l'âge que j'ai. Mais non, mais sinon, j'avais 6 ans. Les tout premiers origami, je les ai faits quand j'avais 5-6 ans. J'avais un livre à la maison qui m'avait appris à faire, en suivant les diagrammes, j'avais appris à faire le bateau. C'est lui qu'après, j'ai posé sur le miroir d'eau. Et ben voilà.
Enfin, nous avons croisé Anne-Lise, l'organisatrice du petit événement, et nous lui avons posé quelques questions.
Je suis Anne-Lise Rosy, la directrice de l'Office culturel de Senon. Aujourd'hui, en fait, on fait un goûter de Noël. On organise ça un peu pour les adhérents, pour tout le monde, on va dire aussi, pour animer un petit peu la dernière journée avant les fêtes de Noël. Ça fait 2 ans qu'on le fait. On a commencé l'année dernière et en fait, on faisait pas grand-chose à Noël. On distribuait juste des petites choses et puis on s'est dit que ça pouvait être sympa. L'année dernière, on n'était pas là, on était au château et c'était toujours un peu compliqué pour faire des événements comme ça. Et là, comme il y a un petit parc fermé, du coup c'était l'occasion de pouvoir le faire. Il y a un peu tout le monde, alors c'est souvent les adhérents qui viennent, en fait là c'est quasiment que les adhérents, les enfants qui font les ateliers, qui sont aux ateliers. Et de temps en temps il y a un peu de personnes extérieures, mais c'est sur ce genre d'événement c'est rare, c'est vraiment plus pour les adhérents qu'on fait ça. On ne peut pas faire de marron chaud et que les crêpes ça plaît bien aux enfants aussi et que c'est bon. Et que c'est facile à faire. En fait, on fait pas ça pour l'argent, on fait vraiment ça juste pour passer à un bon moment. C'est pour ça qu'on fait des petites choses vraiment pas très chères sur le stand. C'est pour marquer le coup, en fait. Alors là, on est deux. Il y a Maureen qui est chargée de communication et de diffusion, et puis moi. Et d'habitude, il y a aussi une autre personne, mais qui est en arrêt maladie. Il y a juste l'installation du stand, après faire les crêpes la veille, et puis voilà quoi. Donc c'est assez, ça met une heure et demie pour préparer ça.
C'était une de nos premières expériences en reportage et on a trouvé ça cool. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Eau de Radio. C'était Jory,
Lisa
et Milo.
Allez, merci. Voilà, Jory, Lisa, Milo, j'allais vous remercier, mais comme c'est dans l'interview, voilà, ils ont passé toute une semaine à nos côtés. Là, c'est le fameux stage d'observation de 3e et merci à Yon qui les a accompagnés sur cet événement mercredi. J'espère que vous avez bien mangé, toute l'équipe. Voilà, ça avait l'air bon et puis magnifique accent de Alice. Voilà, merci pour ce reportage. Et là, on va être dans une autre ambiance, mais vous allez voir que ça va également être un moment festif. Hein, voilà. On avait pu rencontrer lors des assises de la vie associative senonaise à la Maison des Assos le 28 novembre dernier, beaucoup d'associations, et Pascal Bruand, président de la DSB, l'association pour le don de sang bénévole de Senon. Alors évidemment, c'est un sujet sérieux, trop peu de monde donne leur sang, voilà, c'est un geste citoyen solidaire, mais vous allez comprendre dans l'interview à un moment donné, voilà, il y a un petit peu de rire, mais je vous réexpliquerai, puis on le comprend dans le contexte. Voilà, on était juste à côté du photomaton et là, ça permettait à chaque personne de pouvoir se prendre en photo. Alors évidemment, il y avait une ambiance joyeuse et festive. Allez, on écoute Pascal Bruand. Donc c'était le 28 novembre dernier. Donc si des notions de date apparaissaient, ceci explique cela. Donc voilà, Pascal, le président de l'association pour le don de sang bénévole de Senon. Et je reviendrai compléter. Voilà, je le dis plusieurs fois dans l'interview pour donner les dates des prochaines collectes, car c'est l'association pour le don de sang bénévole de Senon. Mais ils ont également Artigues près Bordeaux, comme une zone sur laquelle ils contribuent à organiser ces collectes. Mais tout est dit dans l'interview. Allez, Pascal Bruand, je viens vous donner les dates des prochaines collectes.
Pascal, ravi bien de se croiser.
Bonjour Joël.
Donc Pascal Bruand, président de la DSB, oui. L'acronyme, je vous laisse le repréciser.
Association des donneurs de sang bénévoles sur le territoire de Senon et Artigues près de Bordeaux.
Alors, on va en parler, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a une première question qui me taraude de façon de parler. C'est vrai que sur l'organisation, c'est une organisation, bien sûr, municipale, il y a des instances comme le CLVA, Conseil local de la vie associative, qui ont été associées à la préparation et vous êtes membre de cette instance citoyenne associative.
Oui, c'est vrai, on est membre de cette instance où il y a quelques associations de Senon qui sont membres, où on se rassemble ponctuellement dans l'année et on essaye de comprendre ce qui fonctionne, de ce qui mériterait de mieux fonctionner au niveau des associations et à faciliter la relation à la fois avec la municipalité et les associations, ce qui débouche à plein d'idées et qui se concrétise petit à petit.
Puis ça, c'est une volonté avérée, forte de la municipalité.
Oui.
D'être au plus proche des habitants et puis œuvrer, bien sûr, au plus près des Senonaises et Senonais. Alors, juste dernière question sur le CLVA. Vous avez accepté d'être dans cette instance. C'est vrai que ça permet d'avoir des moments de partage. Après, c'est du temps donné en plus de vos activités professionnelles et bien sûr associatives. Mais c'est important, selon vous, d'être dans une instance comme cela où on peut échanger. On a souvent des infos, pas avant tout le monde, parce que d'abord, voilà, bien sûr, il y a monsieur le maire, tout son staff. Et d'avoir, par exemple, une dernière réunion, on avait une vision sur toutes les prochaines échéances. Là, on parlait de ces assises qui n'est pas un forum associatif, on le rappelle. Mmh. 2025, il y aura Fêtons Senon qui est entre guillemets un forum. Et c'est important pour vous, c'est encore du temps à donner, encore du bénévolat, de l'implication.
Oui, en effet, c'est tout cela, Joël, en effet.
Voilà, mais en même temps, je connais un petit peu le CLVA, je crois qu'on s'y croisait.
C'est
hein.
ça, c'est ça. Mais ça me semble important et intéressant quand on est impliqué dans la vie associative, d'être un des acteurs qui permet soit d'apporter sa petite pierre supplémentaire ou de développer ses idées, qui seront prises ou pas prises, peu importe. Mais ce travail collectif permet justement d'aboutir à des actions que la municipalité
comme
va porter,
d'aujourd'hui.
Comme celle d'aujourd'hui tout simplement, ou comme celle de Fêtons ce nom, qui a été transformée du Forum des associations en Fêtons ce nom, d'une certaine manière, parce qu'on s'était rendu compte à travers différentes associations que le modèle proposé ne fonctionnait plus actuellement et qu'il y avait besoin de faire autrement les choses. Donc ils nous ont écoutés, ils ont compris les attentes en tout cas des associations et ça se développe différemment. C'est toujours en test, ça n'empêche pas, mais en tout cas il y a des éléments qui sont faits et oui ça prend du temps en effet, mais quand on est convaincu que le tissu associatif et que le bénévolat a son importance dans une société,
ça fait partie des paramètres.
Voilà, ça fait exactement.
Voilà, d'être impliqué. Alors on espère que dans certaines associations qui ont du mal à recruter des bénévoles ou la transmission, c'est pas évident, on peut comprendre. Hein, je veux dire, on a tous des contraintes familiales, professionnelles. Voilà, mais c'était important d'en dire quelques mots. Ça permet de mieux nous connaître. Hein, c'est ce qu'on disait aujourd'hui. Alors évidemment, on peut pas être à la fois sur les tables rondes, l'atelier, derrière un stand ou à la radio, mais quand il y a les réunions et néanmoins sur cette journée, ça permet de rencontrer des associations que l'on connaît déjà, mais on peut avoir une autre discussion.
Et puis d'autres qu'on ne connaît pas du tout, qui sont plutôt dans l'ombre et que là, ils se mettent à la lumière d'un seul coup.
C'était le cas avec Inda tout à l'heure, hein, du comité.
Oui,
il y a eu de la bonne humeur.
Il y a eu de la bonne humeur, oui.
Voilà, et ça, c'est important. Voilà, alors c'était bien d'échanger un petit peu dans un premier temps. Alors l'association des donneurs de sang bénévoles de la ville de Senon, on va rappeler, parce que des associations de ce type-là, il y en a, bien sûr, il n'y a pas qu'à Senon, mais là, vous représentez Senon et Artigues près Bordeaux,
oui.
Ville mitoyenne. Alors, c'est quoi vos missions, justement, au sein de l'association ?
Alors, nos missions, c'est une association bénévole de loi 1901. Et notre mission principale, c'est faire de la promotion et de l'accompagnement des donneurs de sang dans une démarche éthique, solidaire, dans un seul objectif principal, c'est l'autonomie de santé à partir de produits sanguins. Voilà, c'est à peu près dans les grandes lignes. Après, notre association, qui n'est fait que de bénévoles, nous n'avons aucun salarié et ce n'est pas une entreprise, accompagne et est partenaire de l'établissement français du sang, qui lui est un établissement public et qui est une entreprise.
Quand il y a les collectes, vos missions, vous le rappelez chaque fois que vous venez à la radio, bien sûr, vous n'êtes pas médecin, vous êtes bénévole, vous êtes dans l'accompagnement, la médiatisation en amont.
Oui.
Et après, quand il y a les collectes, bien sûr, c'est tout le staff médical, rencontre avec le médecin,
exactement.
Etc. Donc du coup, je présume, comme tout le monde, on a besoin de bénévoles.
Oui.
C'est vraiment à la portée de tous, parce qu'aller coller des affiches dans des lieux de proximité, ce n'est pas le plus compliqué, mais c'est connaître un petit peu, bien sûr, son territoire, donner un petit peu de son temps.
Oui.
Donc ça, c'est la première étape, j'allais presque dire.
C'est presque une des qualités de l'association, c'est qu'on a plusieurs possibilités si quelqu'un veut s'engager pour pouvoir faire une action bénévole. Il y a aller rencontrer des commerçants pour leur proposer de mettre l'affiche pour la prochaine collecte de sang qui peut avoir lieu.
Histoire que plus elle soit vue,
exactement, et essayer d'avoir un plus de donneurs plus importants. Pardon, je bafouille. Ça peut être aussi d'aller déposer des tracts dans certains quartiers où il y a possibilité de mobiliser une population, ou ça peut être venir à O2 Radio faire une interview ou une information sur le don de sang ou le don de plasma ou le don de plaquettes, comme ça peut être aussi être présent le jour de la collecte pour la mise en place de la salle avec l'établissement français du sang, accueillir les donneurs, les rassurer, prendre des nouvelles, côtoyer ces gens-là.
Mettre à l'aise.
Les mettre à l'aise, exactement.
En quelque sorte, donc dans un premier temps, c'est médiatiser, communiquer.
Oui.
Ce qui est très important.
Ce
on a eu Georges, correspondant Sud-Ouest, donc ça a permis d'échanger. Donc oui. J'espère qu'il y aura les coucou Georges. Après, c'est l'accueil le jour J des collectes.
Bon,
pour les bénévoles, ça représente combien de temps ? Parce qu'il faut préparer la salle, accueillir. Après, évidemment, le staff médical maîtrise son sujet. Donc, eux, ça, c'est leur partie. Donc, ça, c'est une deuxième fonction. C'est à peu près combien de
Alors,
temps ? Parce que si des personnes nous écoutent, qui disent tiens, ben, moi, j'aimerais bien pouvoir aider.
C'est une très bonne idée, ça, Joël, d'aborder ce sujet-là. Le jour de la collecte, il y a, c'est à peu près, si on veut assister à toute la durée de la collecte, temps de préparation jusqu'au moment où on range la salle, c'est environ 6 heures de son temps à faire. Sur ce nom, et comme sur Arctique, ça se passe une après-midi. En gros, aux alentours de 14h, 14h30, il y a la disponibilité qui pourrait préparer la salle. Et en général, quand l'établissement français du sang quitte la salle avec tout son matériel rangé dans le camion, il est aux alentours de 19h30, 20h.
Donc là, il reste encore
cette amplitude là.
Voilà, mais c'est bien de le préciser.
Et après, en amont, alors juste après la collecte, en amont, il y a la pose de banderoles que l'on voit sur les ronds-points, les carrefours, ce genre de choses. Il faut les mettre en place, mais aussi les démonter après coup. Il y a un fléchage qui est mis en place la veille ou le jour même de la collecte, parfois réduit sur le temps de trajet, parfois un peu plus long. Ça permet au moins aux donneurs de se guider dans la rue, dans la ville, de telle manière
faut
à savoir où se, trouve,
hein, bien sûr.
Où se trouve la collecte en question. C'est pareil aussi, ce petit fléchage, il faut le mettre, mais aussi l'enlever. Et après, il y a une chose que l'on ne fait pas, c'est d'enlever les affiches chez les commerçants, on leur laisse le soin de le faire,
oui,
qui sont des partenaires très importants aussi.
Ça, ils peuvent le faire. Après, les banderoles, c'est vrai qu'il faut faciliter parce qu'il y a toujours besoin de plus de donneurs.
Exactement.
Donc ça, ce sont les missions principales.
Après, il y a d'autres missions, comme quand je viens vous voir pour vous de tenir informé.
Bien sûr, mais ça, c'est partie de la médiatisation. Mais
ça fait de la médiatisation que l'on fait.
Bien sûr.
Ça peut être aussi, on ne l'a pas mis en place, mes prédécesseurs l'avaient fait, mais on ne l'a pas mis en place depuis que j'y suis parce que par manque de temps, tout simplement. C'est faire de la promotion dans les établissements scolaires ou dans des structures particulières. Donc, c'est aller voir les gens, prendre une heure ou deux heures de son temps, leur expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est, etc. Ça peut être dans une école, ça peut être dans un tissu associatif très particulier, comme ça pourrait être dans une communauté religieuse ou pas religieuse, peu importe, mais une communauté en soi qui a besoin...
Une entité, quoi.
Une entité qui a besoin d'en avoir un peu plus d'informations,
ou
de telle manière à pouvoir donner.
Donc ça, s'il y avait plus de bénévoles, ça pourrait
être... Ça permettrait de soulager, en effet, et d'engager au moins cette démarche-là. C'est un projet qui est toujours en attente, mais ça pourra venir un jour.
Bah ça, vous êtes combien dans l'association? On a toujours besoin.
Ouais.
Mais je ne vous demande pas forcément le chiffre exact.
Combien vous pensez qu'on en est, Joël?
Oh, moi, j'irais une dizaine.
Oui, c'est ça. On est une dizaine de bénévoles à s'occuper de tout ça.
J'avais pas la réponse. Hein, mais... non, mais après, on se côtoie. Après, Pascal, c'est vrai qu'on a l'occasion de se croiser. Certains bénévoles, voilà, on peut les croiser. Après, on n'est pas au courant, bien sûr, par rapport à toutes les associations.
Et chose importante, c'est que les bénévoles ne font pas tout. Alors qu'il y en a qui adorent venir aux collectes, il y en a d'autres qui préfèrent rester à faire de la boîte aux lettres ou que de l'affichage. Il y en a d'autres qui préfèrent faire que des banderoles. Il y en a d'autres qui font des banderoles, un tout petit peu de collecte et ça suffit amplement. C'est-à-dire qu'il y a une telle panel de possibilités, c'est que chacun offre son temps comme il l'entend et comme il le veut.
Le tout, c'est que de tenir son engagement.
Exactement. Ça, par contre, c'est important. Oui.
Voilà, évidemment, ça, c'est valable pour toutes les assos. C'est-à-dire que même si on peut s'engager que juste à mettre des affiches, là, je dis que, mais après, je me reprends. C'est quand même important.
C'est déjà important, exactement.
Donc là, on recherche toujours. Hein, c'est le message à faire passer. Après, développer des actions auprès de différents publics, ça serait
une bonne chose. Il y a plusieurs aspects qui peuvent rentrer. Donc, il y a au niveau des écoles, parce que ce sont souvent les futurs donneurs qui sont potentiellement à venir, mais aussi parce qu'ils peuvent aussi, en prenant conscience de l'importance d'un don, d'inciter soit des parents ou de la famille ou un truc comme ça, à se dire bah, tiens, viens, on va donner ton sang parce que ça a telle raison ou ça a telle importance, ou parce que j'ai mon petit copain d'école, bah, lui, tous les mois, il a besoin d'être transfusé intégralement de son sang pour tel truc, parce qu'il y a une pathologie particulière qui fait que. Et donc, ça peut être ça.
Pascal, vous avez des nouvelles?
Oui, Joël, j'ai des nouvelles.
C'est un métier, c'est un métier.
J'ai des nouvelles, bien sûr.
Bon.
Notre dernière collecte de sang qui a ce nom a eu lieu le 8 novembre dernier, ce qui fait qu'on a fini notre saison, entre guillemets, de collecte de sang sur ce nom, mais aussi sur Artigues. Alors, chose intéressante, c'est que j'ai compilé l'ensemble de ce que les donneurs ont permis de faire sur ce nom et Artigues. Alors, chose intéressante, c'est que sur ce nom, sur 6 collectes, il y a eu 471 personnes qui se sont présentées pour pouvoir donner leur sang. Et il y en a 387 poches de sang qui ont été prélevées en soi, ce qui est déjà énorme. Mais très intéressant pour cela, ce qui est un tout petit peu moins que l'année dernière en 2023, mais c'est à peu près équivalent. Et sur Artigues, c'est la même chose. On a eu sur les 4 collectes de sang que l'on a eues, 265 personnes qui se sont présentées et 245 poches de sang qui ont été prélevées. Bon, ça nous laisse prétendre que sur Artigues, les donneurs de sang sont plus... comment dirais-je ? Il y a moins de refus ou moins de personnes recalées, entre guillemets,
faut expliquer
par rapport
pourquoi,
à ça.
D'ailleurs,
exactement.
Pourquoi il y a la différence entre les deux, parce que il y a un entretien avec le médecin et il y a certains, pas interdits, mais enfin, il y a des paramètres.
Il y a des paramètres, il y a des conditions.
Si on s'est fait tatouer, par exemple, il n'y a pas longtemps,
c'est ça.
Ce qui explique cela, c'est-à-dire qu'on peut venir avec la plus grande volonté, mais il y a cet entretien avec le médecin qui fait que.
Il y a des règles qui existent, qui sont éditées par le ministère de la Santé
et ça,
et l'ARS.
Déroger, c'est la santé.
On
ne
peut pas y déroger, exactement. C'est la santé à la fois du donneur et à la fois de celui qui recevra la matière organique, la matière sanguine. C'est assez important. Alors, il y a plein de paramètres différents. On a eu certains donneurs qui voyagent, ce qui est normal, ils se déplacent à l'étranger. Il y a un temps entre le moment où on a voyagé et le moment où on peut donner son sang, et à un ou deux jours près, ben, parfois, on peut être entre guillemets recalé ou à journée. Après, ça n'empêche pas. Il y a d'autres collectes de sang ailleurs qu'à ce nom. On peut aller donner son sang sur les communes aux alentours, à la maison du don qui est à côté, au pied de l'hôpital Pellegrin, délivré directement par le tram A, donc on peut s'y rendre même en tram s'il le faut. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en effet, il y a quelques contre-indications, quelques règles au moins à respecter pour cela.
Même on peut rappeler, Pascal, que sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, toutes les conditions requises pour donner ou les contre-indications sont précisées.
Oui.
Mais c'est l'entretien avec le médecin qui, lui, va pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir non plus dans ces cas-là.
Oui.
Ça ne sert à rien, je veux dire, parce que c'est à la fois sa santé, mais là, ça ferait plus de sens de, voilà, si, oui. Par exemple, on s'est fait tatouer, qu'on vient de certains pays, etc. Donc, comme vous êtes sûr de...
Ouais.
Pardon, allez-y,
compléter. Donc, sur ces chiffres, donc, première chose à faire, je remercierai au moins tous les donneurs qui se sont présentés, qui sont venus, qui ont pris leur temps pour pouvoir donner une partie de leur sang et qui ont permis, grâce à une poche de sang, sauver 3 vies à chaque fois. Donc, c'est super important. Et au total, sur les 2 communes, ça fait quand même 632 poches de sang qui ont été collectées dans l'année 2024. Et je les remercie grandement. Et on les attend avec grand plaisir l'année prochaine aussi sur nos collectes, à la fois sur Artigues et Senon.
Vous avez toutes les dates en tête ou on les redonnera?
Non. La prochaine, elle est au mois de janvier, je crois, c'est autour du 10 janvier à ce nom.
Après, vous nous les avez portés, bien sûr. Oui. La cause n'est pas en tête, on le rappelle. Hein. C'est pour ça, s'il y a du monde derrière nous, c'est que dans le cadre de ces assises, on est près du photomaton. C'est très sympa, ça permet d'avoir des bons souvenirs.
Oui, d'ailleurs, Joël s'est fait une petite photo un peu spéciale avec des accessoires de déguisement. C'était rigolo.
Super, on coupera. Hein. Je suis sûr que ça va passer. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour ce petit clin d'œil. Juste, on rappellera, bien sûr, pour les prochaines... je vais vous redonner la main. Voilà, parce que là, il y a un petit peu d'ambiance derrière nous. On rappellera que pour les dates, même si vous ne les avez pas en tête là, parce qu'on est dans une ambiance spéciale, mais on les a et on communiquera en temps réel au moment opportun. Là, qu'est-ce que vous voulez me parler? Là, je vois Eurotandem 2024.
J'ai un article, celui-là.
Alors, dites-moi de ce
j'ai un article sur quelque chose d'intéressant. Vous le passerez quand vous voudrez à Eau de Radio, peu importe. Hein. C'est juste pour parler d'une action qui est menée par une école en France, l'école nationale supérieure Mines Télécom de l'île d'Ouée, qui fait un tour de France tous les ans, aux alentours de Pâques, qui passe à peu près sur Bordeaux. Ils font le Tour de France, un peu comme le Tour de France, mais il n'y a pas de maillot jaune, c'est qu'un maillot rouge en général. En tandem, ils font 50% du trajet en tandem, ils passent dans la montagne, ils font des cols, ils font des plaines, ils passent parfois sur des plages, etc. L'année dernière, en 2024, ils sont passés à Pessac, où ils ont été accueillis. L'année prochaine, ils passent à Bègles, pareil aussi.
Il y a une date avérée d'ailleurs.
Elle n'est pas encore arrêtée, bon. Mais on sait qu'ils passent à Bègles, ça c'est certain.
On aura l'occasion d'en reparler.
C'est l'occasion d'en reparler. Il y a quelques années de cela, ils sont passés à ce nom à plusieurs reprises par les prédécesseurs. Donc un jour, ça reviendra certainement à ce nom. Et ce sont des jeunes qui, sur 2 ans, et ça fait partie de leur cursus scolaire, ils ont un engagement à faire d'aller faire ce parcours-là pour le don de sang, en partenariat avec l'établissement français du sang. Et les associations localement les accueillent, l'occasion de faire une fête et quelque chose de particulier. Mais ça sera pour eux un projet dans un très long terme.
Non, mais c'est bien parce que ça fait partie des belles initiatives.
Oui,
c'est
soulever.
Bon si ça peut donner d'autres idées.
Exactement.
Alors, on le rappelle, il y a beaucoup d'ambiance là, tout à coup dans les assises, là, c'est ce qui explique qu'il y a du monde derrière. Pascal, juste avant que vous ne partiez,
oui.
Voilà, il y a notre question fil rouge. Voilà, alors je vous laisse regarder Pascal. Je pourrais vous lire la question, juste vous représenter en quelques mots, parce qu'on va garder sur cette partie que ça, votre nom, prénom, rappelez-nous l'association que vous présidez, si vous voulez redire 2 mots sur l'association, et après répondre à la question.
Alors, je suis Pascal Bruand, je suis le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Senon et d'Artigues, une association qui est là pour la promotion et l'accompagnement des donneurs de sang pour faire valoir tous les dons de produits sanguins auprès des donneurs, mais aussi accompagner les donneurs dans leurs actions et dans leur bien-être pour les dons qu'ils font. Alors, à la question qui est posée, quelles conditions, selon vous, sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement d'une association? Il me semble que une des conditions, même si c'est au pluriel, mais une des conditions importantes, c'est plutôt une bonne cohésion entre tous les bénévoles, une espèce de complicité ou d'engagement vers une action ou une valeur ou des valeurs particulières qui feront que le fonctionnement de l'association sera plutôt bonne et permettra de perdurer. Et ça passe par plein de moyens, ça passe par la bonne entente, le bonjour, le salut, la camaraderie, s'appeler de temps en temps, se faire des réunions, se faire des bonnes bouffes aussi, ou des bons trinquages de boissons, ou de se rencontrer dans la rue, dans d'autres cadres particuliers. Voilà, c'est ça qui fera que l'association pourrait avoir un bon fonctionnement.
Voilà, j'écoutais bien sûr avec attention. Merci Pascal Bruand. Voilà, c'est un enregistrement, vous avez bien noté, du 28 novembre dernier. On était à la maison des associations Jacques Charlot à Senon pour les premières assises de la vie associative senonaise. Voilà, et parmi les invités, eh bien Pascal Bruand. Et je rappelle, à un moment donné, voilà, on rigolait alors que le sujet, voilà, de solidarité, citoyenneté, de don de sang est quand même important. Mais il y avait une belle ambiance et c'est vrai qu'on était, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, si vous avez pris le reportage en cours, on était près du photomaton où chaque personne, association, voilà, pouvait venir se reprendre en photo et repartir avec de magnifiques clichés. Donc voilà, ce qui explique la bonne ambiance derrière. Et malgré façon de parler ce sujet sérieux, eh bien voilà, il y avait un petit peu de belle ambiance, de bonne humeur. Allez, je l'ai promis, donc prochaine collecte de sang. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'établissement français du sang, le FS, bien sûr, pour voir toutes les autres collectes et comment donner son sang. Voilà, il y a plusieurs lieux comme Appel-le-Grain et autres. Et pour les collectes à Senon et Artigues qui sont sur la zone, j'allais dire, d'activité de l'association pour le don de sang bénévole de Senon, eh bien à Senon, ce sera à la maison des associations, là où on était d'ailleurs pour les assises, 11 rue du Mai 1945. Voilà, les prochaines, donc les vendredis 10 janvier, 14 mars, puis 16 mai, on aura l'occasion d'en reparler, entre 15h30 et 19h30. Il faut s'inscrire, on peut s'inscrire d'ailleurs dès maintenant, dondesang.efs.santé.fr. Et pour Artigues près Bordeaux, ce sera à la Grange de Bétail, avec trois prochaines dates, les mercredis 12 mars, mercredi 21 mai, mercredi 9 juillet, 15h30, 19h. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Alors, on va en rester là sur ce journal. Voilà, on va remercier Lilia, la régie technique. Merci à Yon pour la présentation et réalisation de Bref. Merci à Jory-Lisa Milo, hein, qui toute cette semaine était à nos côtés. Voilà, c'est dans le cadre de leur stage d'observation de troisième au collège. Et vous avez vu, ils ont pu participer à ce reportage réalisé mercredi. On remercie Anne-Lise et toute l'équipe de l'OCAC, hein, voilà, qui les a accueillis avec chaleur, qui a répondu à leurs nombreuses questions lors du goûter gourmand de Noël organisé par l'Office culturel et d'animation de la ville de Senon. Voilà, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver le magazine juridique Défendez-vous, juridique et social. Oui, que je sois complet, Défendez-vous. Présenté, réalisé par maître Paul Cesseau, le temps d'une belle pause musicale. Voilà, parmi les concerts, eh bien, ça a été l'un des concerts que l'on a mis en avant toute cette semaine. Et même avant, on a pu recevoir Daniel, qui est l'organisateur de cet événement, à la fois artiste avec le groupe Monochrome Zéro, mais organisateur avec l'association Allume le Poste. Et voilà, il y aura quatre groupes. Ce sera Wayan au Salem ce samedi 21 décembre, donc demain. Et c'est en soutien au Blues Rose. Le prix d'entrée, c'est un jouet. Pas de peluche pour des raisons d'hygiène, mais des jouets neufs, bien sûr. Voilà. Puis quand vous accomplissez l'acte d'achat, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir une petite pensée, bien sûr, pour les enfants qui sont en milieu hospitalier, surtout sur des périodes comme celle-ci. Et heureusement qu'il y a des associations comme les Blues Rose. Il y en a encore d'autres, bien sûr, Clown Cystoscope, etc. Et là, l'action est menée en soutien au Blues Rose. Goodbye 20, Hello 13 de l'Indie Rock, Monochrome Zero, avec un DJ, hein, un VJ même. Attention, si je vous induis en erreur, un VJ. Là, on parle de vidéo pour du post-rock abyssal, art visuel. Nana Sapritch, que l'on a écouté. On a écouté chaque groupe, Noisy Girl. Et là, on va se quitter avant de retrouver le magazine juridique et social. Bien sûr, vous avez bien noté avec le groupe GAR. Ce sera le quatrième groupe de ce plateau demain soir en soutien au Blues Rose au Haillan. Voilà, on écoute le groupe GAR, c'est juste en suivant. Ce sera le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par maître Paul Cesseau sur Ondes Radio.
le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cessot.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Eau de Radio pour votre émission juridique du vendredi midi. Défendez-vous et pour cette dernière émission de l'année avant les fêtes de fin d'année, nous allons parler des discriminations et des règles de preuve prenant prétexte d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre dernier pour reprendre un petit peu la situation à cet égard, notamment dans le cadre du contrat de travail, mais pas seulement. Un bon point de départ est certainement l'article 1er de la loi du 27 mai 2018. 2008, pardon, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Qui pose, cela sera repris par la suite tant côté pénal que dans le cadre du contrat de travail, le principe, et on est un petit peu obligé de faire la lecture, puisque le texte va nous évoquer les discriminations directes, les discriminations indirectes. Alors, discrimination directe, c'est relativement aisé à saisir. En gros, c'est lorsqu'on fait une différence de traitement qui se fonde sur un des critères prohibés par la loi. Alors, les critères prohibés par la loi, j'y reviens. Ensuite, ils sont nombreux. Alors, l'exemple qui est donné notamment sur le site du Défenseur des droits, c'est une offre d'emploi qui précise que les femmes ne peuvent pas postuler. Ça, c'est relativement classique, pas tellement comme offre d'emploi, mais facile à comprendre comme discrimination. On avait vu en jurisprudence aussi dans les médias le cas des agences immobilières qui mentionnaient interdiction aux étrangers ou sur d'autres critères prohibés par la loi. Une discrimination indirecte, nous dit le texte, constitue une discrimination indirecte, une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs, donc des critères, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Voilà. Et donc là, si par exemple, on prend un critère neutre, on est, par exemple, sur une annonce d'emploi, un critère de taille qui peut, le cas échéant, se justifier en fonction du métier, qui pourrait se justifier objectivement, le cas échéant, en fonction du métier. Sauf que cela peut entraîner l'exclusion de beaucoup de femmes qui sont plus petites que les hommes, d'une manière générale. Et là, on peut se trouver face à une discrimination indirecte. Le texte nous précise, alors du coup là c'est moins facile à déterminer. Il y avait aussi le cas où par exemple on pourrait dire que certaines primes sont interdites aux salariés à temps partiel quand la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes, ce qui pourrait constituer une discrimination indirecte. Alors c'est moins facile à déterminer, dans la mesure où c'est moins évident. On comprend bien que, par exemple, quand quelqu'un se déplace dans une boulangerie et qu'on lui dit « je ne vends pas aux personnes de petite taille », par exemple, à partir de ce moment-là, on va se trouver face à une discrimination. Et pas que, au demeurant. Discrimination directe. Quand on assure une discrimination indirecte, il est moins évident de la qualifier parce qu'elle ne saute pas, elle ne saute pas aux yeux premier abord. Alors on nous précise quand même que la discrimination indirecte, donc à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un critère, par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Alors, quels sont les différents critères sur lesquels on ne peut pas se fonder au risque de commettre une discrimination. Il y en a beaucoup. On a ce que l'on connaît tous et d'autres que l'on n'évoque moins souvent. Donc il y a l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur. Donc il y a aussi des apparences qui sont prises en compte, de son patronyme, c'est-à-dire de son nom, de son prénom, de son lieu de résidence. C'est vrai que quelquefois il y avait des discriminations fondées, par exemple des CV qui étaient écartés de personnes qui avaient une adresse qui se trouvait dans un quartier particulier. De l'inclure dans les critères de discrimination permet d'éviter, en tout cas de le sanctionner, lorsque la preuve en est rapportée, donc lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, eu égard à toutes les analyses génétiques qui peuvent être faites, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de son non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Ça, ce sont les différents critères. On voit qu'il y en a, beaucoup. La loi étant intervenue de manière assez régulière pour mettre à jour les textes en fonction des évolutions de la société, notamment donc, comme on l'a vu, sur la question du lieu de résidence, mais aussi sur l'identité de genre, la capacité à s'exprimer dans la langue, etc. Ce sont les différents critères sur lesquels on ne peut pas se baser pour prendre un certain nombre de décisions. Alors, cet article premier, qui est assez copieux, nous précise que la discrimination inclut, petit 1, tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ou le fait d'enjoindre, donc petit 2, le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé. À l'article 2, je vais y venir. Donc il y a donc une discrimination lorsque sont commis des agissements, un d'ailleurs suffirait, sur une personne, sur la base d'un des critères indiqués tout à l'heure, par exemple son sexe, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Là aussi, on va se retrouver sur une notion de discrimination. Alors, que nous dit l'article 2 ? C'est-à-dire que les discriminations donc directes et indirectes fondées sur les motifs, sur les critères qu'on a vus tout à l'heure, sont interdites en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle. De même, en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fourniture de biens et services. Voilà. Et donc ces dispositions sont ensuite reprises sur le plan pénal par le code pénal et sont ensuite intégrées au code du travail dans le cadre des relations dans le cadre des relations de travail, et c'est là-dessus que l'on va arriver vers la décision du la Cour de cassation qui nous sert de prétexte. Et donc le code pénal, donc là c'est sur le côté pénal, prévoit donc la définition de discrimination, article 225.1, et prévoit des sanctions pénales, 225.1, 225.2, et donc punition donc d'une peine de 3 ans d'emprisonnement ou de 45 000 euros d'amende, les discriminations intervenant dans le cadre d'une embauche, d'une demande de stage, d'une période de formation ou en entreprise, ou lors d'une sanction ou d'un licenciement, mais également, donc là, on va se retrouver en fait dans le contrat de travail, enfin dans le droit du travail, mais aussi le refus de fourniture d'un bien ou d'un service, le refus à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés au code pénal. C'est-à-dire que cela concerne aussi donc les discriminations. Donc sont pénalement réprimées les discriminations dans le monde du travail, mais pas seulement, les discriminations aussi dans la vie quotidienne, hein, donc sur la fourniture d'un bien ou d'un service, c'est-à-dire on refuse de vous vendre parce que vous êtes handicapé, par exemple, vendre un bien ou de vous procurer un service en raison d'un des critères prévus par les textes. Et dans le code du travail, ces dispositions ont été reprises, où on nous explique, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire indirecte ou directe, notamment. Ce sont des exemples en matière de rémunération, d'intéressement, distribution d'actions, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation, renouvellement du contrat de travail, donc en raison des critères déjà indiqués. Donc on voit que le texte vise large, d'autant plus large que l'on nous met de toute façon, notamment en matière de rémunération, intéressement, etc. Il y a différents types de ça concerne, c'est quand même très large aussi, donc le recrutement, c'est-à-dire qu'on part du début à la fin du contrat de travail. On a le recrutement même au niveau du stage, le recrutement salarié, la formation, et puis le salarié au niveau des sanctions, du licenciement ou en matière de rémunération. Donc on vise quand même très large dès le début de la relation entre l'employeur et le salarié. Ou le stagiaire, ou celui qui voudrait, ou le prétendant à un poste quelconque. C'est bien joli d'avoir des textes, bon, c'est déjà bien de les avoir, mais c'est bien joli de les avoir. La question se pose quand même de leur application. Et la question cruciale que l'on a en droit, c'est toujours le droit de la preuve. Je l'explique régulièrement, celui qui gagne, c'est pas tellement celui qui a raison, c'est celui qui démontre qu'il a raison, c'est-à-dire celui qui arrive à avoir la preuve. Et on sait que en matière de discrimination, la preuve est quand même assez difficile à obtenir, surtout dans le cadre d'un contrat de travail dans lequel il y a un lien de subordination qui rend encore plus difficile la possibilité d'obtenir des preuves par témoignage. Par exemple, ce qui fait qu'en droit du travail, c'est pas le cas en droit pénal, mais en droit du travail, il y a une adaptation des règles de preuve. Le principe de la preuve est que c'est celui qui énonce un fait en substance qui doit rapporter la preuve. Ce qui voudrait dire qu'en matière de discrimination, la charge de la preuve incomberait au demandeur, savoir qu'il devrait démontrer l'existence d'une discrimination. Donc, il va de soi que dans ce cadre-là, c'est particulièrement difficile, voire parfaitement impossible dans bon nombre de cas. Ce qui fait que le législateur a adapté les règles de preuve en créant une règle de preuve particulière. Puisque là, le Code du travail nous précise que lorsqu'il y a un litige en raison de méconnaissance, en matière de discrimination, donc le candidat à un emploi, un stage, une période de formation en entreprise ou le salarié, donc on voit qu'on revise large sur les personnes énoncées précédemment. Donc la personne qui se plaint de la discrimination donc présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirect. Et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Et on nous précise aussi que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. C'est ce membre de phrase, notamment, qui va nous intéresser concernant l'arrêt qui nous sert de prétexte. On voit donc que là, le demandeur à l'action va toujours avoir à une preuve allégée, mais elle va toujours avoir une obligation probatoire qui pèse sur lui, mais il va devoir présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Par exemple, le fait d'avoir reçu des sanctions disciplinaires fondées sur le non-respect de règles au droit syndical, relatives au droit syndical, par exemple, qui ne laisserait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ou le fait de recevoir des insultes racistes, par exemple, pour prendre des cas qui sautent un peu aux yeux. Mais c'est comme c'est le même principe qu'en matière de harcèlement. Ensuite, donc à partir du moment où on considère que ces éléments laissent effectivement supposer l'existence d'une discrimination, la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Donc à certaines fois, ça va être relativement compliqué. À partir du moment où le fait d'insultes racistes est démontré, par exemple, il va être quand même assez difficile de lui justifier. Mais bon, certains cas, par exemple, si quelqu'un dit « j'ai reçu une sanction disciplinaire fondée sur... » alors en réalité, cette sanction disciplinaire caractérise l'existence d'une discrimination, l'employeur va pouvoir dire bah, non, il y a une sanction disciplinaire qui est justifiée parce qu'il y a bien eu tel fait qui était des faits fautifs qui ont été commis, j'en rapporte la preuve, cela n'a donc pas d'incident, ça n'a pas fondé sur un critère de discrimination. Donc la partie défendresse prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Et c'est le juge qui va apprécier évidemment, en l'occurrence conseil de prud'homme et cour d'appel derrière, mais le juge forme sa conviction au regard de ce qui lui a été donné, mais aussi éventuellement il peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime utile, c'est-à-dire que là le juge a un contrôle, a un rôle qui est actif. Donc la preuve, pour résumer là, sur ce point, la preuve n'incombe pas à celui qui se plaint de la discrimination de rapporter la preuve de la discrimination, mais simplement d'éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, ce qui allège sa charge, et à partir du moment où cette preuve est apportée, la présentation d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, c'est à la partie défendresse de se défendre justement et de venir justifier objectivement sa décision. Et donc le rôle du juge est important parce que, d'abord parce qu'il va juger toujours, mais bon, on peut imaginer qu'on a un juge actif, un juge passif, qu'on a un juge qui... se contente basiquement de reprendre ce qui est indiqué par les uns ou par les autres, en tout cas de s'en référer aux qualifications données par les uns et par les autres, et c'est là que l'on arrive à l'arrêt indiqué. Donc, mais on voit que le juge peut ordonner des mesures d'instruction si ça paraît utile et si c'est faisable par rapport à cette à la matière dans laquelle il est saisi. Alors là, en l'occurrence, nous avons un arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024 qui est récent, qui reprend donc les éléments que j'ai les éléments juridiques que j'ai indiqués qui ressortent du Code du travail. Mais dans ce cas présent, donc vous aviez un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Alors, prendre la prise d'acte de rupture du contrat de travail, c'est quand on écrit à l'employeur en disant « Voilà, vous ne respectez pas mes droits, tel est tel droit. En conséquence, je considère que je prends acte de la rupture du contrat de travail. Et là, le contrat de travail est rompu, reste à déterminer quelles sont les conséquences. Soit le salarié a raison dans les griefs qu'il formule encore de son employeur, auquel cas le licenciement, la prise d'acte de rupture sera requalifiée en licenciement. Ça veut dire quand même qu'il faut saisir le conseil de prud'homme, soit le salarié. Sur le conseil de prud'homme juge que le salarié a tort, auquel cas elle prendra les effets d'une démission. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut manier avec précaution, mais ce n'est pas le sujet de notre arrêt, puis c'était simplement sur la situation factuelle. Il saisit le conseil de prud'homme en disant licenciement nul, car discrimination, et il demande un certain nombre de conséquences. Le conseil de prud'homme reconnaît que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Du coup, ils disent quand même que le salarié a raison et que l'employé avait à tort. Là, le problème, c'est que là, on est sur les conséquences. Si on est sur une mesure qui est une mesure discriminatoire, on est sur une mesure qui est nulle. Ce qui est juridiquement différent d'un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse. Juridiquement différent d'abord parce que les notions ne sont pas les mêmes et parce que les conséquences ne sont pas non plus les mêmes. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse, on va se retrouver barémisé. Un licenciement nul, ce n'est pas le cas. Donc le conseil de prud'homme et les premiers juges, en tout cas les juges du fond, cour d'appel, considèrent qu'il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne reprennent pas les conséquences relatives à la discrimination. Et en pratique, les juges la cour d'appel avait rejeté la demande en se fondant sur le fait que le salarié ne faisait mention d'aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, en constatant pourtant que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes, etc., par exemple. Je cite cela. Par exemple, et donc la cour d'appel avait dit, vous nous dites en substance, vous ne dites pas que c'est qu'il y a de la discrimination, moi je vais pas me casser la tête en fait. La cour de cassation leur dit, ah mais non, ce n'est pas si simple, n'oublions pas que vous avez un vrai pouvoir et qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, puisque à partir du moment où le salarié disait par exemple qu'il avait subi des propos racistes, ces éléments devaient être considérés comme des éléments de fait relatifs aux agissements discriminatoires, donc laissant supposer l'existence d'une discrimination directe, plus récemment en l'espèce, qu'indirect. Ça veut dire que, là encore, la Cour de cassation va dans l'esprit de la loi, va dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire simplifier la tâche de celui qui se plaint de l'existence d'une mesure de discrimination, en lui évitant de... c'est un peu le boulot de l'avocat, mais dans le conseil de prud'homme, il n'y a pas nécessairement d'avocat, en évitant de procéder à une qualification juridique qui peut lui être, le cas échéant, fastidieuse. Bon, après, on pousse aussi les tribunaux et les cours d'appel, en l'occurrence, à ne pas se prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont, et on leur demande simplement aussi de réfléchir par rapport aux faits qui leur sont soumis. Pour les règles en matière de droit du travail. Alors en matière de droit pénal, parce qu'on a vu qu'il y avait des sanctions pénales, donc en matière de droit pénal, les règles de preuve, par contre, ne sont pas aménagées. On est sur quelque chose de tri classique. C'est l'enquête qui doit démontrer, puisque là, on va quand même sanctionner quelqu'un, pas simplement dans le cadre du contrat de travail, mais par une peine. On a vu que ça pouvait être de l'emprisonnement et une amende. À la victime et au parquet, donc à l'enquête, de démontrer l'existence d'une discrimination. Ça peut être facile quelquefois, ça peut être beaucoup plus compliqué d'autres fois. Ce qui fait que On se pose la question quand même dans ce type de dossier aussi, lorsqu'on est sur une procédure qui peut avoir une procédure qui peut être dans le contrat de travail, est-ce qu'il est intéressant de saisir, de déposer une plainte et de saisir le parquet, voire de, en cas de cassation ensuite de poursuivre au-delà, donc de saisir la juridiction pénale ou de se contenter de notre procédure devant le tribunal, devant le conseil de prud'homme, puisque au pénal les règles de preuve ne sont pas aménagées et si le juge pénal relaxe, on sera quand même en grande difficulté devant le juge devant le conseil de prud'homme, devant le juge du contrat de travail et devant le juge civil de la discrimination. Voilà. Bon, mais ça, d'une manière générale, c'est de toute façon toujours la question qui se pose, hein, dès qu'on va faire du pénal en marge d'un litige de droit du travail ou d'un autre litige civil, on va quand même se poser la question de la pertinence de lancer deux voies qui peuvent retarder, voire avoir des incidences. La procédure pénale peut avoir une incidence défavorable, négative sur la procédure. Sur la procédure civile. Voilà, dernière précision, j'ai oublié pour revenir au Code du travail, l'action réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans. Donc au contraire des prescriptions, classiques, licenciement 12 mois et mesure disciplinaire 200, donc on se retrouve avec une prescription qui est aussi plus longue. Preuve, mais bon, en aparté, que le législateur est bien conscient que les prescriptions qu'il a installées dans les autres domaines sont quand même particulièrement brefs. Bon, c'est notre débat et on arrive à la fin de la demi-heure qui nous est allouée. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2025.
Votre radio locale adhère à la FRANA. La Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine accompagne ces radios dans le développement de leurs projets, les formations ou encore la défense de leurs intérêts communs. C'est aussi une plateforme d'échange d'informations locales. Vous souhaitez communiquer à l'échelle du territoire? La FRANA peut vous proposer un plan de communication. Retrouvez la FRANA sur frana.fr, par mail à franaquitaine@gmail.com ou contactez votre radio.